L'expérience commence. Certains sortent de leur corps. Ils sont là, face à vous, mais pourtant, ils sont ailleurs aussi. Ils sont partis. Il y aurait des portes invisibles qu'on pourrait pousser. Ceux-là ont accès à un monde augmenté, comme s'ils avaient des sensations et une perception beaucoup plus aiguë que la nôtre du monde qui les entoure. Chaque samedi de l'été, nous diffusons les podcasts originaux de l'expérience. Vous allez écouter une série pas comme les autres, hors de soi. Il y a 8 épisodes rassemblés ce soir. France Joly et Christine Robert ont rencontré Nicolas, un expérienceur capable de sortir de son corps. Vous découvrirez d'ailleurs que le retour à l'intérieur de soi peut se révéler problématique. Puis, vous entendrez 3 synesthètes, Sigrid, Huguette et Vincent. Les synesthètes, eux, ont leur sens qui se superpose et donc ont une perception augmentée. Hors de soi, c'est se quitter, c'est faire un voyage et accepter de rentrer un moment dans la vie de ceux dont la conscience est un peu différente de la nôtre.
Un soir, comme ça, juste avant de m'endormir, tac, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve face à une nébuleuse, une énorme nébuleuse bleue. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de vivant, comme un battement, comme une respiration, même si c'était pas forcément perceptible avec le sens de la vue ou des choses comme ça, mais il y avait vraiment une sorte de respiration. Et j'avais vraiment l'impression d'être face à quelque chose qui à la fois me dépassait et à la fois était comme une partie de moi, une partie de nous. Des scintillements, comme des explosions, une myriade d'étoiles qui naissaient, qui mouraient peut-être en même temps aussi.
Tous ces phénomènes, c'était extrêmement troublant. Moi, ça m'a permis, si vous voulez, de les toucher du doigt en tant que scientifique. Je ne suis plus du tout la même après ces 12-13 années de recherche avec Nicolas. Ça a complètement changé ma vision du monde. Et ça m'a permis aussi de m'ouvrir à ces autres réalités.
J'avais l'impression d'être à la fois tout petit, d'être minuscule, à la fois d'être immense, d'être cette nébuleuse. C'était grandiose. Ouais. J'avais vraiment l'impression de toucher l'immensité du doigt.
On est obligé de commencer à admettre qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Qu'il se passe quelque chose dans l'invisible, on va dire. Donc c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on commence à l'imaginer, cet invisible.
Puis quand je suis revenu dans mon corps, juste après ce premier voyage dans le cosmos, je me suis senti vraiment tout riquiqui, mais tout petit. Et je me suis dit, mince, je suis sur une planète, dans un corps, et je vis un truc tout riquiqui, alors que juste au-dessus de moi, là-haut, il y a des trucs énormes qui se passent et qui nous dépassent. Et depuis ce jour-là, chaque soir, je fais une sortie hors du corps et je me retrouve dans le cosmos.
Aller voir avec leurs yeux, leurs sens, leurs émotions, le monde tel que le perçoivent quelques autres qui ne sont pas des aliens, mais dont la conscience est simplement différente de la nôtre. hors de soi. France Jolie, Christine Robert.
Vendredi 29 mars à 12h50.
Bonjour, c'est Daniel. Donc, je commencerai par dire que je ne fais pas des sorties de corps à volonté du tout. Pour moi, ça reste complètement impromptu, soudain. Sans que je m'y attende, je me retrouve en sortie de corps. Tout d'un coup, je prends conscience que je suis là-haut, très loin, dans les étoiles, et je vois la Terre, et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est complètement hors norme. Je suis très très haut dans la nuit noire. Je montais de plus en plus vite à une vitesse complètement folle jusqu'à un moment où ça allait tellement vite que le système s'est inversé. Je peux le dire que comme ça, je comprends pas. C'est comme si j'étais immobile et le temps, je sais pas comment expliquer ça, le temps défilait autour de moi. L'espace défilait autour de moi, c'est plus moi qui fonçais vers le haut, tellement c'était énorme et rapide. J'avais une sensation d'immobilité à une vitesse complètement dingue et moi j'étais immobile et ça défilait autour de moi d'une façon incroyable. Là j'ai eu peur et ça me fait revenir dans mon corps.
Pour effacer tapez 2.
Si vous laissez votre témoignage et qu'à un moment donné vous êtes coupé,
pour réécouter,
vous me rappelez.
Je vous rappelle qu'il vous suffit de taper 2 pour obtenir de l'aide à tout moment.
Et vous continuez la suite du récit.
Tapez 3.
D'accord.
Donc, tu vas te mettre totalement à l'écoute de ton corps.
Nicolas, l'expérienceur.
Commence par être totalement présent à tes pieds. Ressentir la chaleur, le contact de tes chaussettes, la chaleur sur la peau, puis tu remontes tranquillement, lentement.
Je sors de mon corps.
Le long des jambes.
Alors que celui-ci est étendu dans le centre de recherche.
Les cuisses.
Juste à côté. À ce moment-là, les cloches de l'église se sont mises à sonner. Et moi, j'entamais ma sortie du corps. Et j'ai été happé par le son des cloches et je me suis projeté directement dans cette église. Église dont je ne connaissais pas du tout l'intérieur parce que j'avais jamais eu l'occasion d'y rentrer.
Tu sens le contact du tissu sur ta peau. Tu laisses déjà des vagues profondes de relaxation envahir ton corps.
Tout d'un coup, Nicolas est totalement immobile.
Et j'arrive comme avec un...
Petit à petit.
Un léger mouvement.
Tu remontes.
Dans cette église, dans cette immensité.
Et ton corps se détend, se relâche. Il devient très relâché. Il devient très, très lourd.
Son regard devient totalement vide.
Lourd, lourd.
On a vraiment l'impression d'être en face d'une enveloppe vide, d'une coquille vide.
Donc apparemment, Nicolas nous semble parti.
J'ai l'impression d'être tout. D'être les murs, d'être les pierres, d'être les bancs. D'être aussi les statues qui sont là. Tout semble animé d'un mouvement. Et je suis plus particulièrement attiré par des bougies. Des petites bougies qui sont au pied d'une statue de la Vierge. Et là, ma vision se cale sur ces bougies avec une espèce de petit mouvement ondulatoire. Et je ressens la chaleur de la bougie. Je ressens l'éclat de la bougie. Et quand je prends conscience de ça, je suis surpris de ressentir presque physiquement cette chaleur et cette intensité. Ensuite, dans un mouvement très rapide, je quitte le lieu et je me retrouve dans mon corps.
On va laisser revenir tranquille, tranquillement.
Dans la seconde, tout d'un coup, là, c'est comme une sensation de surprise.
Et là, j'ai été obligé d'en parler à Sylvie et Claude-Charles, leur dire, j'ai senti la chaleur des bougies. Et au moment où je disais ça, sur mon avant-bras est apparue comme une marque de brûlure. Comme si mon corps se souvenait de l'information et se sentait obligé de marquer l'information et de retranscrire cette information de chaleur, de brûlure.
Est-ce que tu peux me raconter tes impressions, tes sensations, le jour où tu es rentré réellement dans l'église ?
Le premier jour où j'ai mis les pieds dans l'église, j'avais un peu peur parce que j'avais besoin de me rassurer. Je m'étais déjà rassuré tout au long de ma vie sur tout ce que j'avais pu voir en sortir du corps, mais là, on était dans un cadre scientifique parce que j'étais étudié par les chercheurs et j'avais peur qu'en rentrant, je découvre des lieux complètement différents de ce que j'avais pu voir. Donc j'ai passé la porte et là en fait, j'ai vu le lieu que j'avais vu en sortir du corps. J'ai été saisi par la véracité de ma vision en fait. Et en même temps un peu déçu, dans le sens où mes yeux ne voyaient qu'une partie de ce que ma conscience avait pu voir. Et j'avais l'impression qu'à ce moment-là, au moment où mes yeux voyaient cet endroit-là, il en manquait un bout. Et je me disais, qu'est-ce qui manque ? J'arrivais pas à mettre un mot sur ce qui manquait. C'est un peu comme si, avec mes yeux, je ne pouvais pas voir cette vibration. Je dis vibration, mais c'est pas le mot. Respiration, plutôt. Et ces couleurs-là, avec nos yeux, on voit du gris sur les murs. Je vois une pierre plutôt terne, alors que quand je suis venu visiter l'église avec ma conscience, ouais, il y avait du gris, mais c'était pas ce gris là, c'était un gris, un beau gris, un gris chantant. Même les lumières, même les bougies étaient beaucoup plus lumineuses. Elles n'étaient pas que jaunes. Il y avait tout un tas d'autres couleurs, d'autres ondes, tout un tas de vibrations autour des bougies, autour des bancs. Comme si, avec mes yeux, je ne voyais qu'une partie figée de la réalité, quelque chose de restreint. C'est un peu décevant.
Hier à 13h52,
c'était l'après-midi.
Daniel, dans le cyprès.
Je vois le plafond se déformer. Alors là, bizarrement, je n'ai pas perdu conscience. Tout s'est passé d'une façon très lucide, de A à Z. Je vois le plafond se déformer, s'agrandir, et tout d'un coup, comme si je partais vers le plafond. Mais en fait, je partais réellement vers le plafond. Juste, je me dis, mon Dieu, je vais rentrer dans le plafond, je vais me faire mal. J'ai juste le temps de dire ça, j'avais déjà traversé le plafond, le toit, le grenier, tout ce que vous voulez. Je me suis retrouvé dans un tunnel, mais complètement vertical, à une vitesse folle. Je sentais le frottement contre moi. Ça allait de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. À un moment, ça allait tellement vite que je me retrouve dans les étoiles, dans la pleine nuit noire, en train de voir la Terre, qui est d'une beauté totale, extraordinaire. Je la reverrai toujours dans mes yeux, comme ça. Et d'un coup, au bout de quelques secondes, une ou deux minutes, je ne sais pas, je prends conscience que je suis là. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas conscience que c'était moi. Je croyais être dans un rêve, un film ou je ne sais quoi. Et là, je m'aperçois que je suis, oui, bien là, bien là-haut. Et ça me fait comme ça à moi, mais non, mais là, c'est pas possible. C'est beaucoup trop haut, cette histoire. Et en une fraction de seconde, très étonnant, mais c'est comme ça, je suis arrivé dans mon jardin, au milieu des cyprès, là où j'habite dans la campagne. Et là aussi, c'était très perturbant parce que mon corps est rentré dans le cyprès. Et comme évidemment, on n'a pas le corps physique, il est resté à la maison. C'était extraordinaire de sensation de se mélanger à cet arbre en descendant. D'un coup, j'ai pris conscience que j'étais bien là et je me suis mis à, je peux pas le dire autrement, à ramper, à voler contre la façade des murs de ma maison, des voisins. J'entendais même l'eau couler dans la salle de bain. J'entendais parler. Et après, je me suis retrouvé dans mon corps.
Hier, à 13h47.
J'ai commencé à faire des sorties de corps depuis une douzaine d'années. C'était pas inné du tout pour moi. Je connaissais rien du tout à tout cela. C'est suite à un choc émotionnel extrêmement puissant et physique, maladie aussi. Il y a une quinzaine d'années que beaucoup de choses se sont révélées pour moi. Les deux ou trois premières années, j'ai cru devenir fou, jusqu'à ce que je trouve Isnoé, Claude Charles, Sylvie, pour m'expliquer bien des choses, m'approprier tout cela, et ça m'a rendu un service immense. Alors c'est sûr que ma vie a bien changé depuis, grâce à eux. Donc, je veux dire que les premières sorties sont très impressionnantes. C'est pas des rêves, on est complètement conscient. On peut voir parfois ou pas notre corps pendant que l'on visite, que l'on survole plus ou moins loin, plus ou moins haut. Et ça fait un choc, et ce choc souvent me faisait revenir dans mon corps d'une façon immédiate.
T'as pas trop besoin de venir.
Est-ce qu'on peut déplacer la carrière,
d'accord?
Donc tu m'entends pas.
Donc Sigrid est au piano. Ouais. Ben c'est un peu loin quand même.
Ouais, mais
en fait c'est partition de musique.
Mais si elle va parler en même temps.
Dans le monde étrange de la synesthésie.
Imaginons que nous soyons toutes les deux dans le noir complet.
Ouais.
Lorsque tu parles, est-ce que tu vois les couleurs? Moi, si tu me réponds, si tu me donnes un sujet, je vois défiler les mots en couleurs.
Mais comment tu peux voir les couleurs dans le noir?
Ben, c'est au son. Tu me parles. Vert, gris, marron. Tu dis vert, blanc. lorsque tu parles, je vois un texte écrit. Donc je le vois en couleur. Les mots automatiquement arrivent en couleur.
Ah.
C'est pas si je joue les si j'y a des morceaux, parfois j'entends des vagues. Enfin, je sais qu'il y a principalement des. Par exemple.
Merci Sigrid.
Alors. Ça c'est Do ou Ut en fait. Et pour moi, le Do et Ut n'ont pas la même couleur. Donc Ut, c'est l'ancien nom du Do. On dirait du bois un peu suintant, orange ou jaune. Un peu comme une vieille icône en fait. Comme s'il y avait du vernis qui sortait du bois. Donc ça coule en permanence en fait, le Ut. C'est pas très joli. Et le Do, qui est le même son, mais qui dans ma tête, le mot Do n'a pas la même couleur, c'est plutôt blanc cassé. Mais c'est assez épais. C'est comme une sorte de crème anglaise bizarre, mais plus claire. Donc le Do dièse. Le Do dièse ressemble au Do. C'est pareil, c'est un peu une idée œuf. Le dièse, en fait, quand il est avec le Do, donc l'altération là, ça crée des petits filaments dorés sur le Do. Et en même temps, ce son là, Do dièse, c'est aussi Ré bémol. C'est le même son. Sauf que Ré bémol, il est bleu marine avec du orange.
Je ne vois pas le bleu. Justement, Rimbaud, il était très frappé par le bleu. Et moi, je ne vois pas de bleu. Alors, j'ai cherché en me disant, c'est pas normal quand même. Et puis, en m'écoutant, je me suis rendu compte que le son E, E, U, et surtout s'il y a un I devant, par exemple, les yeux, les cieux, Dieu, joyeux, je le vois d'un bleu marine foncé, métallisé. Mais nettement métallisé. Joyeux beaucoup plus que heureux. Comme il n'y a pas le son I mouillé, la couleur est fade. Tous les sons mouillés sont beaucoup plus gais, parce que c'est comme si j'ajoutais à ma... Supposons que je fasse une peinture, que je mette dessus quelque chose, une espèce de vernis qui fasse que c'est lumineux.
D'accord. Le ray, il est bleu marine, très profond, presque noir, duveteux. Et le ray, il a une trajectoire en cône dont je vois pas le bout du tout. C'est une note inquiétante. C'est une note masculine. C'est à la fois attirant et repoussant. Ça fait très peur comme note. C'est pareil pour le ré dièse, qui est là. Sauf que c'est pire. Le ré dièse, c'est un bleu marine encore plus profond qui tire vers le noir. Et qui est un petit peu frangé. Oui, c'est un danger plus grand en fait. Le danger encore plus grand avec le ré dièse. Je sais pas trop pourquoi. J'ai plusieurs synesthésies que je passe ma vie à mettre en doute, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Les mots s'affichent dans les conversations, dans des grisés, et dans un espace extérieur et intérieur. Enfin, intérieur projeté, mais qui reste à l'intérieur. Il y a les chiffres qui suivent des rubans de couleurs. Le temps, les semaines, les jours. Je peux faire des zooms dans le temps et déplier. Par exemple, je peux aller dans le mois de janvier et déplier le mois de janvier. Ensuite, je peux aller dans le lundi du début du mois de janvier et déplier le lundi. Parfois, je me souviens des dates juste par la couleur ou des chiffres juste par la couleur. Le mi normal, le mi tout court qui est là, qui est rose. Je sais pas pourquoi, c'est une note assez creuse. C'est une femme très jeune mais super lisse, le mi. C'est pas une note très intéressante. Je sais pas pourquoi, parce qu'en même temps j'aime bien le mi, mais c'est pas une couleur très intéressante. Le fa, il est vert. C'est la note androgyne. Et soit c'est une femme androgyne pour moi, soit c'est un jeune garçon assez féminin.
Voilà, c'est pas évident le genre du fa. Et le fa dièse ressemble au fa, sauf qu'il est... il est vert et gris. Et c'est un principe végétal et métamorphe. Donc c'est comme si c'était l'accentuation du fa. C'est une femme plus âgée, asexuée, qui a l'air grise, mais en fait à l'intérieur, il y a quelque chose qui bat. La couleur bat beaucoup plus à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est vert. Et c'est très clair, c'est comme des espèces de filaments clairs. En fait, c'est comme si c'était une note qui était un peu un mensonge. Le sol, donc, est noir. Donc lui, c'est... en fait, je crois qu'il y a des parents dans la gamme. Il y a un couple parental assez... voilà, donc c'est le sol et le la. C'est une famille lambda, mais... le sol, c'est le principe masculin initial. Parfois, c'est concentrique, mais en même temps, c'est aussi horizontal. Il y a les deux en même temps. C'est comme si on avait un peu un trou noir et en même temps, il y a une lame de fond. Et c'est un principe masculin plus âgé que le ré. Le ré, il est un peu plus jeune que le sol. Mais bon, ils fonctionnent ensemble. Hein. C'est pour ça que c'est un peu la team. Toutes les notes, toutes les couleurs, elles, plus j'essaye d'y penser, plus elles disparaissent. Et quand elles arrivent, ça dure vraiment 2 secondes. C'est tout le temps en mouvement, en fait. Il n'y a pas de...
Au début, je pensais que tout le monde voyait des couleurs. Bon, après, je me suis dit, ben, ça passera peut-être. Ou... Et puis, ça me le fait tellement machinalement que je n'y pense plus. C'est pour ça que je ne pense même pas à en parler. Ça m'a toujours paru normal, ça a toujours été comme ça. Puisque je n'imaginais pas que des gens pouvaient ne pas être comme ça. Ah, comment t'expliquer ça ?
Huguette, synesthète, sans le savoir.
Bon, on fait des échanges par des paroles, ouais. Par une langue, qu'elle soit française, allemande, anglaise, etc. Bon. Supposons que demain, je dis, mais non, je ne vais pas lui parler comme ça. Je vais décider. Alors, par exemple, je mange du riz à midi. Alors je vais mettre noir, marron, blanc, marron, blanc, blanc. Ça ne lui donnera pas ce que j'ai mangé. Mais voilà ce que j'aurais vu. Gris, je gris, mange marron, du vert. Riz blanc, ah, marron, midi, blanc, blanc. Alors, vert, marron, blanc, blanc, est-ce que ça va te donner automatiquement du riz à midi? Tu vois ce que je veux dire?
Non, ce qui est rigolo, c'est que tu t'intéresses.
Rigolo, tu vois, ça c'est un mot rigolo. Rigolo, c'est rigolo, ça n'est que du jaune, là. Blanc, jaune, jaune. Ça. Ah, je te dis marron. Défoncé, c'est un noir qu'on aurait essayé de gommer un peu, c'est pas franc. I, c'est très blanc, alors là c'est lumineux. Tous les mots en I, c'est formidable. O, c'est jaune, et U, c'est vert. Une jolie pelouse verte, hein. Bon. Et alors, Y, c'est un gris sale.
D'accord. Et c'est toujours comme ça.
Toujours comme ça. Le E, accent aigu, c'est le rouge. Et le I, c'est le blanc. Ça, c'est très net. Le A est beaucoup moins net, parce qu'il n'est pas noir, il est marron foncé. Et le E, un noir qui n'est pas noir, un noir qui aurait été gommé un petit peu. Alors quand je m'interroge sur les autres sons, je me rends compte par exemple le O que je vois jaune, suivant qu'il est accompagné ou pas d'une autre lettre, il change un peu de couleur. Par exemple avec un U, c'est un O très doré, très très lumineux. Si j'ai une consonne après, par exemple un N, un S, ça devient un peu ocre jaune. Alors le A que je vois marron, très foncé, si j'ai le son E, A, I, ben c'est du chocolat au lait. Il y a des choses qui par exemple paraissent drôles, le O, O, I, le son OA, je le vois rose. Alors que normalement, ça devrait être un jaune paille. Ben moi, je le vois rose.
Pourquoi tu dis normalement ça doit être un jaune paille?
Bah, puisque le haut, je le vois jaune et le haut, je le vois blanc. Si tu ajoutes du blanc au jaune, ça va être un très pâle. Moi, tous les sons en « oie », de la joie, il fait noir, il fait, je vois rose. Le « i » apporte énormément de choses parce que, étant donné qu'il est très blanc et très lumineux, dans un mot ou dans un prénom, par exemple, c'est très gai. Émilie, Virginie, ce sont des mots lumineux.
Et ton prénom, alors Huguette?
Bon, il est terne comme tout, parce que U c'est vert, bon. Puis Guette, alors le son E justement, ajouter un T, ajouter un L, ajouter un N, il devient tout passé. Tu as par exemple une robe grise que tu as trop lavée, elle devient un gris qui est moche. Eh bien, c'est ça. Je ne saurais pas t'expliquer.
Ouais, c'est inexplicable. C'est
inexplicable. Les lettres que je vois en couleur, mais je les entends en même temps, si tu veux. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Si je suis dans le noir, en somme, ça éclate comme un son en couleur. Et je n'y pense pas. Là, j'y pense en ce moment, parce que tu me poses des questions. Et que je m'observe.
Mmh. Non, alors moi, quand je suis dans le noir, si tu me parles, je vois rien. Mais j'entends des sons, quand même. J'entends les sons.
Ben heureusement. Dans ça, alors. Quand tu rêves, tu dois être tout dans le noir, alors.
Pourquoi?
Ben, puisque tes mots n'ont pas de luminosité. Les images, il faut bien que tu leur donnes un nom. En donnant un nom, tu leur donnes une couleur. Mais moi, je pense que je n'arrive pas à comprendre parce que je ne vois que tout en couleur et toi, tu n'arrives pas à interpréter parce que tu ne vois pas les couleurs. On a l'impression, si j'étais à votre place, qu'il manque un sens. C'est comme un autre sens.
Donc toi, tu as vécu pendant 95 ans avec un sens développé.
Non, je n'ai pas encore 95.
94, pardon.
94 et demi.
Avec tous ces sens-là.
Mais tu sais, c'est pas une chose dont on parle. On en a parlé accessoirement quand on a parlé de Rimbaud en classe. Tiens. Et moi, souvent, je n'ai pas fait tiens. Bah, j'ai décidé pourquoi il ne voit pas les mêmes couleurs que moi. C'est tout.
Ben oui.
Ce à quoi les parents m'ont regardé en disant, elle est pas bien, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et moi, je me rendais compte que je n'inventais pas parce que c'était toujours la même couleur qui revenait. En classe, on n'apprend pas la synesthésie, puisque je te dis, même les directrices d'école, elles n'avaient jamais entendu le nom. C'est parce que l'autre jour, ça s'est trouvé très drôle que tu m'as parlé de ça.
Je vais rentrer dans ce Inner Space Immersion System, la cabine. Alors, ça souffre où, ça? Aïe! C'est un endroit très capitonné, très agréable. Et on va refermer la porte. Voilà, je vais bientôt être dans le noir total. C'est un peu angoissant en fait. Je vois plus rien. C'est très cotonneux. Il y a quand même un petit point blanc là-bas qui rassure, un peu comme dans les IRM. Et je pourrais m'endormir. Le corps qui se met à vibrer. On a une sensation d'être transpercé par des vibrations. Et après, il faut bien lâcher prise pour pouvoir être complètement détendu. Donc Là, je vais faire la petite tentative avec des sons un peu différents pour voir.
Il y a de la musique qui va être diffusée au niveau des pieds et les sons sont ressentis dans le corps, en fait, au niveau des ondes cérébrales. Va stimuler les sens pour atteindre certains états modifiés de conscience.
Nicolas revient dans son corps.
C'est vrai que Nicolas, il n'en a pas vraiment besoin parce que lui, il sort tellement facilement de son corps que capsule ou pas capsule, il y arrive. Mais pour d'autres personnes, ça peut être un moyen d'y arriver plus facilement.
Au centre de recherche, mon but est de voir une image qui se trouve dans la pièce d'à côté. Claude Charles me fait une relaxation pour m'accompagner vers la sortie du corps. Je commence ma sortie et quelque chose, je ne sais pas quoi, me fait revenir, mais je ne reviens pas à l'endroit. C'est un peu comme si je reviens à l'envers. Comme si on mettait un gant dans le mauvais sens, comme si ma gauche était à ma droite et inversement. Et j'ai vraiment la sensation d'être à l'envers dans mon corps, comme si je ne savais plus où se trouvaient mes repères. Et là, je panique. Je panique réellement. J'en ai les larmes aux yeux. Je suis figé. Je ne peux pas bouger. Je demande de l'aide à côté à Claude Charles, qui m'explique que je dois de nouveau sortir pour re-rentrer correctement.
En tout cas, pour moi, ça tombait sous le sens de le refaire sortir pour le faire revenir de la bonne façon.
Alors, il m'accompagne. Il me permet de ressortir de nouveau.
Il n'y avait pas finalement de choses très complexes, au contraire, il fallait rester très simple. C'était « ok, t'es pas bien remis en place, donc ressort, repart et remet les choses dans le bon sens ». Alors à ce moment-là, c'est une routine habituelle, c'est-à-dire l'aider à ressortir, en mettant dans une légère condition plus détendue, et puis après, c'est lui tout seul qui se remet dans le bon sens. Hein. Faut pas croire que c'est un truc magique, il n'y a pas d'hypnose, c'est vraiment très simple.
Et là, j'ai l'impression de faire un mouvement sur moi-même, comme si ma conscience se mettait dans le bon sens, si on retournait une crêpe, et hop, je me repose tranquillement dans mon corps, à l'endroit, la gauche à gauche, la droite à droite. C'était vraiment une expérience troublante et difficile de retour dans le corps.
Tout a été très vite parce que Nicolas est revenu. On a vu son malaise, son trouble, et il fallait réagir vite. Nous, ça ne nous était pas inconnu parce qu'on sait que c'est possible que les gens réincorporent leur corps, mais soit à l'envers, comme Nicolas, soit en étant un petit peu décalé, pas complètement, en étant à moitié dans leur corps. Donc c'est des phénomènes auxquels on est habitué. Mais effectivement, pour Nicolas, c'était troublant. C'était la première fois que ça lui arrivait. Je pense qu'il ne savait même pas que c'était possible. Et on le voyait vraiment très, très désemparé. Et puis, voilà, l'autre chien l'a fait ressortir. Il fallait juste qu'il se remette dans le bon sens. C'était rentré dans l'ordre en 2-3 minutes.
Je sais pas si je vais parler beaucoup plus fort que ça, je pense pas. Tranquillement. Ouais, alors voilà, là je parle.
Ça c'est Bertrand, moi c'est Vincent.
Plus de voix.
Pour moi c'est bon.
Ok.
Ça tourne.
Okay. Ça tourne, super.
Donc je t'envoie du son.
Envoie du son, on va essayer d'ajuster progressivement... ce qui est pour moi transmissible en termes d'expérience.
L'espace sans bord. Est-ce que tu peux nous emmener dans ce paysage-là ?
Quand le son passe de la gauche vers la droite, je n'ai plus de corps physique, l'image me traverse. L'image sonore me traverse ou traverse ce qui n'est plus mon corps, en fait. Je me retrouve vivre une expérience presque fusionnelle avec la matière sonore et totalement immersive. Une forme d'une dimension... assez grande et partie de la droite, plutôt en haut à droite. Une matière dans les oranges composée de myriades de vagues entremêlées, mais comme il y a beaucoup de fréquences, toutes ces vagues-là ne constituent pas une seule vague facile à identifier. C'est un ensemble de vaguelettes, vagues, tsunamis en même temps. Cette matière-là passe à travers ce qui n'est plus mon corps pour se retrouver quelque part à gauche. Lorsque le son remonte un petit peu vers l'aigu, même si j'ai moins de couleurs que lorsque j'étais adolescent, sur ce timbre-là, sur ces fréquences-là en tout cas, le son, quand il part vers un peu vers l'aigu, il devient un peu plus vert, il est orange au départ et un peu plus vert. Mais c'est très subtil, c'est assez peu marqué.
La particularité de la synesthésie, c'est justement de se déployer dans un espace qui n'a pas les mêmes frontières que l'espace mental. Et un objet sonore qui se convertit en objet visuel peut avoir une source spatiale sans horizon, peut provenir d'une distance absolument en dehors des distances qu'on peut imaginer par l'esprit. Ça provient d'un univers infini, si vous voulez, d'une distance infinie, et ça peut s'éloigner à l'infini. Les objets visuels aussi, dans la synesthésie, se déploient dans des espaces sans bord. En fait, il faut passer d'un univers fermé sur soi, avec une frontière, comme l'esprit de tout un chacun, à un univers où on est inscrit dans un milieu sans bord. Et du coup, ce mouvement-là, quasiment antagoniste, ça demande de l'énergie, de se laisser se dissoudre soi pour se laisser s'épancher dans un univers où les synesthésies naviguent dans un espace extrêmement grand. Propose des sons qui se situent derrière moi. Je sais pas comment tu fais parce qu'on a une écoute qui est stéréo, très simple. Et ils ont un mouvement. Alors ce sont des petits bips, hein, très courts. Mais ce qui est intéressant dans ces sons-là, c'est qu'ils ont un mouvement, une forme d'aspiration. L'objet est très petit, hein, et très court. J'ai cette image du pincement de l'espace et du relâchement. Et tout ça derrière ma tête, très court. Et ce son-là a pris beaucoup de place. Alors quand il était à droite, il a opacifié le reste de l'espace. Voilà, celui-ci, là. C'est ça. Alors, quand tu le places à droite, je ne vois plus le reste des images qui sont derrière. Ça prend tout... Je ne vois plus ce qu'il y a derrière. Mais ça dure juste le temps du son, hein. Ce son-là crée une vacuité dans l'espace. Il creuse. Il creuse l'espace sonore. Vous êtes sur la plage et vous prenez vos deux mains et vous faites un trou d'un seul coup, comme ça, dans le sol. Sur la plage, vous allez avoir une sensation très croustillante de sable sur les doigts, mais là, c'est vraiment très doux. C'est très doux et très mou. Et c'est cette image-là que j'ai sur la gauche en bas.
Est-ce que tu vois des couleurs ?
Sur les bips, c'est un blanc nacré, un blanc... embarrassé par les couleurs parce qu'elles sont à la fois très riches et très difficiles à décrire. Les couleurs synesthésiques ne sont pas les couleurs qu'on voit avec les yeux. Est-ce que tu te projettes aussi dans la matière sonore comme ça, Bertrand ?
Ouais, oui, c'est ça qui m'aide à décider qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ensuite.
Est-ce que...
Je me laisse porter par les sons et de voir comme ça tourne et de voir quelle matière pourrait rajouter un contrepoint ou étoffer ce qui est en train de se diffuser. Je vais rajouter celui-là parce que il y avait une sorte de trou là dans le milieu. C'est que c'est... Je me laisse porter, c'est comme une sorte de transe. Ces sons, je suis pas du tout là avec vous, en fait. Enfin, si, mais pas dans le sens physique. que je suis là avec cette machine que je manipule, mais qui m'amène vraiment dans d'autres sphères.
Toi, tu te positionnes où dans cet espace ?
C'est... Si je suis en train de vous le décrire, je suis quelque part au milieu de l'espace. Si je me projette totalement dans l'espace et que j'oublie les mots, je ne suis plus localisé en fait. Il y a une dissolution de mon corps dans cet espace-là et je suis l'espace vibrant en fait.
Quelle serait l'émotion qui te vient à ce moment-là là ?
Une immense sensation d'apaisement et de détendu, de calme. C'est là où il y a peut-être une forme de transe. Cet univers sans bord que je perçois visuellement, c'est pour moi quelque chose qui témoigne d'une forme d'absolu, en fait. De dimensions qui ne sont pas celles de l'esprit, et pas celles des limites de la conscience ou de la subjectivité.
Moi, j'ai l'impression que l'architecture du temps, c'est la même chose que l'architecture de la musique.
Sigrid, plongée dans le temps.
Je comprends pourquoi j'avais réussi à utiliser un agenda de ma vie. Ça, c'est quand même drôle. C'est quand même marrant, l'agenda. Un cahier de texte, c'était encore pire quand on était petit.
Avec les jours à droite, là, de couleur chacun.
Ça, et puis tu faisais un trait où on avait le tas des lundis, le tas des mardis, des mercredis, des jeudis. Il fallait mettre la date à l'écrit, ensuite mettre les devoirs pour le jeudi. Et quand on passait aux devoirs pour le vendredi, on changeait complètement de tas et on allait. Et ça voulait rien dire pour moi, le jeudi et truc, jeudi. Ensuite, vendredi. Ça n'avait pas de sens. Et les agendas, j'ai cru que ça allait être mieux. Et ça n'avait pas de sens non plus. C'est pas assez pratique. En fait, je pense que j'ai un outil tellement pratique qu'un agenda, c'est vraiment la préhistoire, en fait.
Et donc, tu ne notes rien, par exemple. Tu sais que tu as un rendez-vous dans un mois, à telle heure. Tu le visualises dans l'espace.
Ouais, je le note quand même. Je sais que le 6 juillet, j'ai telle chose de prévue, que c'est rouge et jaune et que c'est en bas à gauche.
Alors le 6 juillet qui est donc un jour vert avec un mois rouge, si c'est à 14h, et pour moi c'est le cas, hein, si ouais. c'est à 14h et 14h c'est plutôt une couleur marron, est-ce ouais. que ça génère des confusions? Parce que
pour moi,
pour certains ça peut générer des confusions. Avoir un rendez-vous le 6 qui est vert à 14h qui est marron.
Ouais. Toi, ça génère des...
Moi, pas, mais c'est quelque chose qui revient de temps en temps, que des personnes ratent des rendez-vous, parce que les couleurs sont...
Non, alors ça me gêne pas. Je sais que... Parce que c'est des zooms différents. Je peux plonger dans le mois, et ensuite plonger dans la semaine, et ensuite plonger dans l'heure du jour. Mm-hmm. Par contre, là où je me trompe, c'est que, par exemple, février et mars, je crois que c'est février et mars, c'est là où j'ai le plus d'erreurs de rendez-vous de ma vie, en général. C'est les mêmes chiffres sur les mêmes jours.
Ah oui.
Je crois que c'est les deux mois, il me semble que c'est ça. Où c'est toujours... Enfin, si on a un mardi 3, après ensuite en février, on a aussi un mardi 3 en mars. Mmh. Et alors là, en général, je me plante pas mal. Ouais.
Et alors, tu vois les siècles ?
Un petit peu, pas énormément. Ça devient assez vite complètement...
Et l'avenir, alors, donc, tu vois les années qui...
Oui, je vois les années jusqu'à au moins mes 100 ans.
Ouais. En quelle année?
Mes 100 ans à moi.
Ouais.
Ce sera en 2085.
Et il est positionné où dans l'espace?
Il est... si je suis, il faut d'abord suivre toute l'échelle de couleurs de toutes les dizaines jusqu'à 100. Ensuite, ça c'est assez vertical et...
ça passe devant tes yeux?
Ça passe devant mes yeux, mais en même temps c'est un peu en 3D, c'est pas plat.
Donc c'est d'abord devant tes yeux comme ça, comme des ondes, des vagues?
C'est comme des vagues et comme un serpent qui ondule comme ça, avec toutes les couleurs des dizaines qui sont tout le temps différentes. Et ensuite, il y a les centaines, qui sont un serpent, mais certes, cette fois qui partirait du bas et qui monterait comme ça.
Donc, à ta droite?
Ouais, c'est plus à ma droite, c'est plus par là. Et ensuite, 1000 et 2000, c'est des énormes diagonales qui fuient vers la droite, et donc c'est la deuxième. Deuxième à droite. Et après 85, et ben c'est le petit serpent, comme au début des dizaines, mais très 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 loin. Et le 5 qui fait ça, au haut du 80. Un petit serpentin très rapide, noir, parce qu'il est noir, le 5, qui est vertical au-dessus de la dernière dizaine du 80. Juste avant d'arriver à janvier, par exemple cette année, on est en 2019, si j'essaye d'aller en janvier 2020, je fais le cercle. Et au moment d'arriver à janvier 2020, j'ai l'impression que je vais reprendre mon cercle, mais en fait il fuit juste derrière, et hop, je me retrouve dans un cercle.
Est-ce qu'il y a une limite?
Dans le temps? Non, il n'y a aucun bord. Il n'y a même pas de bord entre les dizaines. C'est comme une spirale sans fin, en fait.
Merci à Nicolas Fraisse, Sylvie Détiolaz, Claude-Charles Fourier, Sigrid Carré-Lecoindre, Huguette Mercier, Vincent Mignerot et Bertrand Fraisse le musicien, et Daniel. Et merci à tous ceux qui m'ont ouvert la porte de leurs expériences non ordinaires. Équipe technique, Laurent Lucas, Pierrick Charles, Philippe Mercher, Pierre Monteil. Hors de soi, France Joly, Christine Robert.
L'expérience, on se retrouve demain dimanche à 20h pour un autre voyage dans l'espace et dans le temps. Sedef Esser repart dans ses souvenirs d'enfance. Elle a été dans les années 70 à Istanbul, une enfant star sur les plateaux de cinéma du Bollywood turc.